RCF.
Je m'appelle Sonia Asni et je suis sous-préfète pour Roubaix.
Bonjour Sonia Asni.
Bonjour.
Et ravie de vous accueillir ici à RCF. Merci aussi de vous prêter au jeu de notre échange. Vous allez vous laisser conduire par des questions qui sont dans cette boîte à questions là et que vous allez piocher au fur et à mesure de l'émission. Elles sont parfois décalées, insolites, inattendues, mais je vous rassure, tout va bien se passer. Et puis vous êtes venu avec les mains pleines, si je peux dire, pour nous parler un peu de vous. Alors j'ai envie de vous présenter Sonia Asni. Vous êtes votre fonction, comme vous l'avez dit, d'être sous-préfète pour la ville de Roubaix. Et ça s'inscrit dans le droit fil de votre parcours professionnel que je résumerai en trois temps, si vous voulez bien. En 2008, pendant trois ans, vous êtes auprès du préfet de Saint-Denis en région parisienne. Et là, vous avez pris à bras le corps la question de l'égalité des chances. Et puis en 2014, pendant trois ans et demi, vous vous investissez dans l'action sociale et la vie de la cité à la mairie de Saint-Ouen. Et puis le troisième temps, en 2018, et là, votre engagement au service de l'État et de la vie publique prend une nouvelle dimension. Vous intégrez le corps de la préfectorale. Alors, à cette occasion, vous mettez un premier pied en Hauts-de-France, en rejoignant la ville de Vervins, dans l'Aisne, pour y faire vos premières armes de sous-préfète. Et puis en septembre 2001, vous mettez un deuxième pied, et là, cette fois, à Roubaix. Alors, reconnaissons quand même que la région vous était déjà un peu familière. Le temps de terminer vos études à l'Institut Régional d'Administration de Lille.
Tout à fait.
C'est bien ça, tout ça ?
C'est parfaitement ça, vous savez tout.
Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander, Sonia Asni, vous êtes sous-préfète de ville en France, en charge de la solidarité à Roubaix. C'est un cas unique, ce type de poste. Est-ce une expérimentation ou une urgence ?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est le seul poste de ce type-là, de sous-préfète attribué à une seule commune. Ça répond à un besoin, surtout. C'est pas une urgence, parce que Roubaix s'inscrit dans le temps long et donc l'accompagnement de cette ville nécessite que l'on se donne les moyens en partenariat entre l'État et la commune. C'est la suite d'un rapport interministériel qui avait mis en évidence qu'il fallait avoir un regard particulier pour cette commune qui à la fois a plein d'atouts. C'est une ville avec plein d'énergie, beaucoup d'associations, une jeunesse qui est vibrante et à la fois qui malheureusement fait face à des indicateurs socio-économiques très dégradés avec un taux de pauvreté important, 44% de taux de pauvreté.
C'est énorme.
C'est la plus grande ville, plus pauvre de France, avec une problématique autour de la délinquance qui est importante. Et donc, main dans la main, l'État et la commune, on avance pour aider cette ville et puis pour la faire passer du côté clair de la force.
Et c'est vous qui êtes ce trait d'union entre tous ces acteurs ?
Voilà, moi j'ai un rôle de coordination sur l'ensemble des sujets et pas uniquement sur le champ de la solidarité, mais j'accompagne et je suis présente également auprès de l'éducation nationale pour des sujets autour par exemple de la cité éducative. Je suis présente sur des questions de sécurité en tant que telle, sur des questions d'emploi. Donc je coordonne l'ensemble des acteurs et c'est un job passionnant parce qu'on a des acteurs sur place qui sont investis, qui ont envie et qui mettent leur énergie au profit de cette ville. Donc, de ce point de vue-là, ça aide et c'est stimulant. Et puis, il y a fort à faire. Donc, on a intérêt à se serrer les coudes. Tous les acteurs du service public, du champ parapublic, mais également les acteurs privés avec lesquels on travaille bien.
C'est très complet.
C'est très complet, c'est très riche.
Alors, j'ai envie de vous demander, au-delà de l'admission par concours au corps de la préfectorale, quelles sont les compétences qui sont nécessaires là, pour bien exercer la fonction de sous-préfet ou de préfet, au-delà du concours et de la validation, on va dire, intellectuelle ?
Alors, il faut avoir le goût de l'animation territoriale, de la mise en lien, de la médiation aussi, parce que parfois, on a des acteurs sur place qui ne se parlent plus ou ne se comprennent plus.
Ah oui.
Mais en revanche, le fait de venir autour de la table, invité par la sous-préfète, ça permet de retisser des liens qui sont parfois distendus. Ça nécessite d'avoir une connaissance juridique fine, et qui s'affine notamment au fur et à mesure des sujets que l'on traite. Et puis, de développer aussi une capacité de vision pour un territoire et de vision partagée avec les principaux acteurs et notamment les élus. Voilà. Donc, vous disiez tout à l'heure, c'est un métier complet. C'est exactement ça, parce que le corpus de base acquis dans le cadre de la formation est utile et il nécessite, d'être re-questionné parfois, ou en tout cas, d'en développer la dimension pragmatique pour pouvoir répondre aux enjeux de ce territoire-là.
C'est complet et complexe.
Et c'est complexe, ça je ne le cache pas, dans la mesure où les sujets le sont par nature,
voilà, déjà, oui.
Qu'on s'inscrit dans un écosystème où il n'y a pas seulement la ville et l'État, il y a une métropole européenne de Lille, il y a un département, il y a une région, il y a des acteurs privés, publics, et dès qu'on entre à Roubaix, en fait il y a pléthore d'acteurs, et justement la question c'est de savoir qui fait quoi et comment mettre en synergie tous ceux qui travaillent pour cette ville.
Alors j'imagine qu'il vous a fallu un certain temps pour découvrir, comprendre toutes ces interactions, comment ça fonctionne au sein de Roubaix. Vous étiez arrivé en septembre 2021.
Exact.
Vous avez pris maintenant la mesure de cette réalité. Qu'est-ce que vous voudriez avoir réussi concrètement d'ici fin 2023 ?
L'idée, c'est pour moi d'avoir participé à la construction d'un projet partagé avec la ville. Voilà, que l'État et la ville regardent dans le même sens et que nous partagions un fil rouge qui permettra de projeter Roubaix. Alors tout à l'heure, je le disais de manière un peu humoristique, mais effectivement du côté clair de la force. Moi, je crois beaucoup au potentiel de cette ville. Qui malheureusement souffre d'un stigmate et notamment d'un déficit d'image, alors que il y a, comme je le disais, des énergies, une jeunesse bouillonnante, et on a intérêt à être au rendez-vous de ces jeunes, au rendez-vous de cette ville-là, qui constitue aussi notre avenir. Donc, je souhaite partager cette vision prospective, et entre-temps, bien sûr, réussir quelques réalisations très concrètes avec les habitants. Ça a commencé. C'est pas sur une durée de. Alors, c'est pas un mandat, mais quand on est sous-préfet, on est là pour deux, trois ans
oui,
à peu près.
Oui.
Mais dans cet intervalle-là, heureusement, c'est jalonné par quelques réussites qui améliorent le quotidien des habitants.
On connaît un peu mieux votre fonction. Maintenant, on a envie que mieux vous connaître, et pour cela il y a une petite boîte à questions. Donc je vous propose d'en tirer une et puis au fur et à mesure, au travers de ces questions, de peut-être mieux faire connaissance avec vous.
Alors, donc j'en ai tiré une et la question est: quel a été le déclic ou le clic qui vous a conduit à ce que vous êtes devenu dans votre engagement ou votre vie professionnelle?
Ouh là là.
Ah oui, alors j'ai combien de temps? Alors moi, j'ai le service public au cœur. Très jeune, je me suis orientée vers la carrière publique. Parce que, alors, je vais le dire en négatif et ensuite je le dirai en positif. En négatif, j'avais pas envie, même si c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que je l'exprimais quand j'étais jeune, j'avais pas envie de me lever chaque matin pour faire de l'argent à une entreprise. Voilà. J'avais envie, et en positif, d'agir pour l'intérêt général. Et pour moi, le service public était ce levier pour pouvoir agir pour le plus grand nombre. Et puis, je suis aussi, comme on dit, un produit de la méritocratie républicaine. Et j'avais envie de rendre ce que j'ai reçu.
C'est beau, ça, oui. Intérêt général ou bien commun? Comment vous faites le... Parce qu'on parle beaucoup du bien commun aujourd'hui, le bien commun partagé, comment... C'est les deux, vous allez me dire peut-être.
Alors, le bien commun, chacun a une vision spécifique de ce qu'est le bien. Et justement, la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on arrive à mettre en commun. Voilà.
Et c'est quoi derrière?
Exactement. Ouais. Et en fait, je parle plus d'intérêt général.
D'accord.
Parce que parfois, l'intérêt général ne convient pas à tous, mais c'est aussi ce qui permet de faire cohésion et de faire groupe.
D'accord. Oui,
voilà. Au-delà même de ce qu'on appelle le bien commun.
Oui, il entretient ou il développe le collectif.
Exactement. Et c'est aussi ce qui s'impose, mais pour le meilleur, et en tout cas pour le meilleur du plus grand nombre.
Bien
de
sûr.
Toute façon, quand on travaille avec un tel impact, sur des populations qui sont nombreuses, il faut veiller à ce qui fait, fait corps et à ce qui fait cohésion. Et il me semble que l'intérêt général est ce qui doit primer dans notre action.
Passionnant. Et ben, je vous propose de retirer une autre question.
Alors, quel est le jour de l'année calendaire que vous aimez le plus et le moins? Alors, c'est une sacrée question que je ne me suis jamais posée. Alors, le jour de l'année calendaire que j'aime le plus, c'est très personnel, mais je dirais le 25 octobre, parce que c'est le jour de la naissance de ma fille.
Ah, voilà. Oui, très bien.
Et celui que j'aime le moins... je dirais que c'est le 29 février parce qu'il revient qu'une fois tous les 4 ans.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer une petite pause musicale que vous avez concoctée. Hein. Donc, vous, c'était un morceau de musique, hein, de Julien Clerc, oui.
C'est ça.
Eh bien, écoutez, on va le découvrir et puis vous nous en parlerez peut-être un peu après.
Traqué à bout de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tué par des rêves chimériques, écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude, sa voix. Si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret, Burger, j'ai l'impression de mourir. Chester, England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu en clôt ta foi. Et clôt, c'est moi.
Silence, le responsable, quel Le tour de la question, Patrice Rouère.
J'ai le plaisir de partager ce moment avec Sonia Asni, qui est sous-préfète donc à la ville de Roubaix. Vous avez choisi Laissons entrer le soleil. Pourquoi ce choix ?
Alors, j'aime beaucoup le rythme de cette chanson et puis elle m'accompagne depuis très longtemps, depuis que je suis beaucoup plus jeune.
Oui.
Je la trouve positive, justement, par laissons entrer le soleil, c'est laissons entrer le positif, laissons entrer la vie, ne nous laissons pas rattraper par les choses obscures. Alors elle a un petit côté rebelle hein, quand même, ce qui me caractérise pas nécessairement, mais peut-être qu'à travers cette chanson, j'exprime... une forme de rébellion qui est quand même assez enfouie, mais...
Bah, une rébellion pour du positif, ça vaut le coup.
Bah, c'est ça, hein, on est d'accord.
Ouais. Allez, on se remet à la quête de vous-même, si je peux dire, au travers de ces questions.
Alors, si vous deviez vous costumer, quelle thématique ou quel personnage choisissez-vous ?
Oh. Aïe, aïe, aïe.
Ah ouais, c'est difficile, c'est difficile. Alors... Je vais revenir en arrière parce que moi j'aimais beaucoup me costumer quand j'étais petite et j'aimais beaucoup regarder Sissi l'impératrice. Et donc voilà, si je devais me costumer, ouais, c'est avec une grande robe de Sissi, ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaisait chez Sissi là ? Bah, c'était ses robes ou ce...
Bah, j'ai aimé son courage.
Son courage.
Et justement, ce côté peut-être un peu rebelle qu'elle avait pour l'époque.
Oui.
Ou en tout cas, c'était une femme qui a compté en son temps et puis qui a su également imposer sa vision des choses dans un monde où la parole des femmes, un moment où la parole des femmes ne comptait pas forcément beaucoup. Et c'est vrai que, sans me déclarer féministe, même si je trouve que c'est pas un gros mot, mais en tout cas, le poids des femmes, la place des femmes dans la société aujourd'hui est quelque chose qui compte pour moi. Dans le métier que j'exerce, on voit que ça se féminise, mais
quelle
néanmoins...
Quelle proportion, justement, dans le corps de la préfectorale ?
On est...
Quelle proportion de féminisme ?
On est 33% de sous-préfètes.
Ah, quand même.
Et pour celles qui sont qui sont préfètes, elles représentent 25%. Donc il y a eu une augmentation très forte liée à un système volontariste qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Néanmoins, on ne reste encore qu'un tiers. Donc ça progresse et on voit que nous faisons notre place et que nous assumons nos missions au même titre que les hommes. Mais il est vrai qu'il y a une culture a changé et je pense qu'on fait aussi bouger le métier et bouger l'institution par la place qu'on occupe.
Et Sissi aura été, on va dire, parmi les précurseurs ou avant-gardistes dans cette voie-là.
D'une certaine manière,
oui. Et j'ai envie de vous êtes venu avec un titre de livre et de vous demander, ça me brûle parce que le titre est assez passionnant, c'est La puissance de la douceur.
Hein,
c'est ça le titre du livre qui vous a marqué et qui vous a marqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots justement ?
Alors c'est un essai à la fois philosophique et psychanalytique parce que l'auteur Anne Dufour-Mantel était les deux. J'avais lu ce livre parce que à un moment où je devais choisir une voie et une thématique, je pensais m'orienter vers les ressources humaines et quelqu'un m'avait dit ne choisis pas ça, tu es trop douce. Et sur le coup, j'avais interprété ça par « tu es trop faible », voilà, ou « tu es fragile ». Et j'ai voulu questionner ce sujet de la douceur. Voilà, qu'est-ce que ça voulait dire être doux ? Et j'ai trouvé ce livre qui m'a passionnée. Et en fait, être doux, ce n'est pas du tout être faible, ce n'est pas être vulnérable. Et d'ailleurs, Marc Aurèle disait lui-même « la douceur est invincible ». Et effectivement, face à quelqu'un de doux ou qui est dans la douceur, on ne peut pas se battre, on arrive à faire avancer les choses sans être dans des logiques de conflit. Alors c'est peut-être aussi ma manière d'être où je n'aime pas le conflit, il faut y aller parfois, mais néanmoins, dans la mesure du possible, je travaille, on va dire, en douceur et c'est aussi une forme de respect pour soi, en tout cas pour moi, dans ma manière d'être, et de respect pour mes interlocuteurs.
C'est une façon finalement d'exercer les ressources humaines, mais différemment et dans un autre contexte. On retrouve finalement les mêmes ingrédients.
Exactement. Et pour le coup, j'ai ensuite assumé des missions dans le champ des ressources humaines. Et je l'ai fait à ma manière, voilà, avec douceur. Et puis parfois, on ne l'est pas tout le temps parce qu'il faut pas. Il y a des moments où il faut aussi sortir un peu du bois et faire preuve d'un peu plus de fermeté. Mais la douceur n'exclut pas la fermeté. On peut dire les choses de manière très ferme, mais très douce.
En tout cas, La puissance de la douceur de Anne de Fourmentel est un titre de livre qui pourrait éclairer bon nombre de nos auditeurs.
Je leur conseille.
Voilà. On le remettra sur le site. Et je vous propose de retirer une autre question. Je vois que vous les lisez avec appétit, alors allons-y.
Oh, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Oh, c'est dur, ça, comme
dur,
question.
Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous voulez faire un joker.
Oui, parce que c'est des choses personnelles.
On va rester sous le soleil.
Cas, je n'ai pas pleuré du fait de mon métier. Voilà,
voilà.
Donc ça c'est plutôt bon.
Au moins,
les
choses sont dites.
Voilà. Une rencontre inspirante. Alors, il y en a beaucoup, et c'est ce qui est fantastique avec ce métier-là, que on rencontre des gens hyper chouettes régulièrement, des personnes très différentes. Une rencontre inspirante, je vais parler de quelqu'un qui m'a marqué dans mon histoire, on va dire. C'était, je l'ai rencontrée lorsqu'elle était sous-préfète de la Tour du Pin. Quand j'ai commencé mes études, pour les élèves boursiers qui souhaitaient entrer dans la fonction publique, on les mettait en relation avec un parrain ou une marraine. Et donc, on m'a mise en relation avec cette marraine qui s'appelle Christiane Barré et qui m'a prise sous son aile au départ pour me faire découvrir un métier, le service public de manière générale. Et c'était il y a un peu plus de 20 ans et on a sympathisé, on est toujours en relation aujourd'hui.
C'est important d'avoir comme ça des rencontres, notamment dans sa vie professionnelle, qui souvent les rencontres nous guident beaucoup.
Hein. Exactement.
Et c'est une chance.
Exactement. Et
chance.
Puis cette rencontre a été fondatrice parce qu'elle est allée très loin, elle est devenue préfète de région et elle était présidente des Amis de Sœur Emmanuelle. C'est quelqu'un qui a des engagements, qui a vécu sa vie de mère, de femme, de cadre dirigeante dans la fonction publique et qui est restée une amie.
Nous arrivons presque au terme de notre rencontre et de nos échanges. J'ai envie de vous demander pour conclure, qu'est-ce qui vous fait espérer quand vous regardez l'avenir et surtout dans votre position d'acteur public en fait?
Ce qui me fait espérer, c'est que les lignes bougent et contrairement à ce que l'on voit, ce que l'on entend, quand je vois une jeunesse qui se pose des questions sur l'environnement, quand je vois des tiers-lieux qui émergent, quand je vois des démarches de collaboratives, d'intelligence collective, je me dis que tout ça n'est pas qu'anecdotique et que on a une jeunesse là qui se pose les bonnes questions et qui d'une certaine manière n'a pas le choix, mais d'un autre côté n'a pas forcément envie d'être dans des logiques de conflit, mais plus des logiques collaboratives. Et donc ça me donne de l'espoir pour la suite, parce que je pense que tous ces remous, ces grands mouvements au niveau international, à mon sens, vont aller vers le mieux, même si pour l'instant, on est dans une période âpre de transition qui est difficile. Mais moi, j'espère et je pense qu'on a des ingrédients qui nous montrent que le monde va changer parce qu'il n'a pas le choix, mais que les jeunes feront les bons choix. Voilà.
Eh bien, Sonia Asni, merci beaucoup pour votre témoignage,
merci
pour ce temps consacré, puis surtout votre message d'espérance et qu'on voit bien que vous incarnez au travers de vos propos et la puissance de la douceur, faire entrer le soleil, on voit bien que c'est des choses qui vous caractérisent bien et on est ravis de vous accueillir, enfin vous êtes là depuis un petit moment, mais voilà que vous êtes dans notre région.
Merci beaucoup, merci à vous.